À travers la photographie, j'ai toujours cherché à révéler la lumière qui est en chacun de nous. Je m'appelle Andréane de Barry, je suis photographe et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Solaire. Les invités de ce podcast sont des hommes ou des femmes, connus ou moins connus. Ils ont des parcours qui les rendent uniques et exercent des métiers aux horizons multiples. Mais ils ont tous un point commun, ils sont lumineux et inspirants. Ici, mes invités vous partagent leurs expériences de vie, leurs souvenirs d'enfance et ce qui les a construits, les liens qu'ils ont su tisser, mais aussi les voyages qui les ont marqués ou les histoires d'amour qui ne sont pas près d'oublier. Dans le podcast Solaire, je vous propose d'écouter des conversations lumineuses pour nourrir votre âme de belles choses.
Lily, take another walk out of your fake world. Please put all the drugs out of your head.
Vous reconnaissez cette chanson? U-turn, Lily, c'est la chanson de toute une génération, celle qui a porté le film Je vais bien, ne t'en fais pas. Elle a surtout révélé le talent d'Olivier Coursier, mon invité d'aujourd'hui, et Simon Buret, qui venait tout juste de former ensemble le groupe Electropop à Aaron et de terminer leur premier album. C'était en 2004. Depuis, leur succès n'a fait que se confirmer. Ils ont sorti 5 albums et leur tournée affiche complet. Discrets, intelligents, ils mettent toute leur âme dans les chansons qu'ils composent. On crée des chemins pour que d'autres les traversent, pour que ceux qui ont été fragilisés comme nous par la vie se reconnaissent. Il y a toujours de l'espoir, disent-ils. Olivier Coursier n'est pas que le compositeur et producteur de ce duo mythique. Artiste complet, Olivier compose des musiques de films, écrit et développe son goût pour la photographie. Sur son profil Instagram, on découvre un homme sensible, artiste talentueux et curieux, qui sait capturer avec une grande poésie des instants de vie. Son travail et sa sensibilité m'ont donné envie de le connaître davantage. Je ne vous en dis pas plus, laissons place à notre conversation. Bonjour Olivier, merci d'avoir accepté d'être mon invité sur le podcast Solaire.
Bonjour, avec grand plaisir.
Dans quel endroit sommes-nous pour l'enregistrement de cette interview?
Nous sommes chez moi, dans ma, je sais pas, j'appelle ça un peu ma cabane près du ciel. Ouais, je suis au dernier étage et pour moi c'est important, surtout dans Paris, dans une ville très dense comme ça.
On a une vue sur les toits. On est dans un appartement joliment décoré avec, j'ai l'impression, plein de choses un peu chinées à droite à gauche.
Pas mal de choses qui viennent en effet de mes voyages. Oui, j'aime bien rapporter quelque chose. Des pierres, beaucoup. Deux dernières viennent du Mexique. J'y suis allé là en fin d'année dernière. Voilà, ça me fait des. Ça rend les choses un peu vivantes.
Et ce piano, il vient d'où? Et ça fait longtemps que tu l'as?
Ce piano, je l'ai depuis, je crois, 3 ou 4 ans. J'ai cherché un piano qui rentrait juste sous le toit, là, donc c'était pas évident à trouver, surtout avec un son qui me convenait. Donc je l'ai trouvé, c'est un piano d'occasion que j'ai trouvé il y a 3 ou 4 ans. Il n'a pas d'histoire particulière, je suis en train de lui créer une nouvelle histoire en tout cas. Voilà.
Imaginons que tu es dans une chambre noire et tu développes une pellicule photo qui représente le film de ta vie. Qu'est-ce qu'il y a dans les premières images? Quelles sont les vibrations de ton enfance?
Les vibrations de mon enfance, je comprenais pas grand-chose, je crois. Je savais pas trop ce que je faisais sur cette planète, bizarrement. J'ai des souvenirs d'école où je me retrouve au milieu de la cour et je me disais, ok, comment je vais m'en sortir? Comment? J'étais extrêmement timide et pour moi c'était un monde. Difficile, d'un seul coup, il fallait se faire des amis, t'as pas le choix, etc. Donc, c'était pas spécialement génial. Voilà, c'était plein de défis pour moi, pour quelqu'un d'extrêmement introverti, timide. Et j'ai commencé à trouver quelque chose qui me plaisait quand j'ai commencé. Un jour, il y avait un piano chez les amis de mes parents, et en effet, j'ai posé mes mains dessus et j'ai trouvé ça génial. C'était un feu d'artifice dans ma tête. Je m'en souviens très bien. J'avais 5 ans, c'était à Lyon. C'était un piano à queue et je trouvais ça dingue. Et puis, forcément, quand on sait pas jouer, on pose une main, et puis parfois c'est beau, et puis parfois c'est un accord un peu dissonant. Donc, d'un seul coup, c'est un monde qui s'ouvrait à moi, et je crois que c'était un langage évident pour moi.
C'était la première fois que tu jouais du piano?
que j'avais, c'était la première fois que je touchais un instrument de musique, et donc je jouais, que j'essayais un piano. Et toutes les vibrations, enfin c'était dingue, vraiment je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais enfin trouvé une place quelque part.
Tes parents n'étaient pas musiciens ?
Pas du tout, rien à voir.
Ils faisaient quoi ?
Mon père était ouvrier, enfin il travaillait dans une usine, après il a évolué, il s'occupait de personnes, etc. Et ma maman bossait dans une grande société qui s'appelle, je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, l'EDF. Mais pas du tout de musique, non. Ils ont tous les deux commencé à travailler à 14 ans, je crois, 14-15 ans.
Ils t'ont pas du tout éduqué là-dedans, en fait, non. Est-ce qu'eux aimaient écouter de la musique ? Est-ce qu'ils le faisaient particulièrement ou...
Ma mère écoutait beaucoup de musique. Il y en a toujours eu à la maison. C'était très important pour elle. Après, il y a passé de la musique classique à du Johnny Hallyday, voilà, les deux extrêmes. Mais tout le temps de la musique, ouais. C'était... jamais silencieux.
Et tu avais des frères et sœurs ?
J'ai un frère qui a 10 ans de moins que moi, oui.
Dont tu étais proche ? Lui, il te rassurait pour quelqu'un qui...
C'est plus moi qui le rassurais parce qu'il est plus jeune que moi. Donc je m'en suis beaucoup occupé jusqu'à ses 12 ans. Puis après, je suis parti parce que je vivais en banlieue. Donc j'ai connu les côtés cool de la banlieue et puis aussi l'ennui les week-ends. Mais aujourd'hui, j'en fais une force parce qu'en fait, c'est ça qui m'a, comment dire, fallait trouver des choses à faire en fait et fallait imaginer des choses. Et aujourd'hui, j'en fais, finalement, je remercie cet ennui.
On dit souvent que de l'ennui naît la créativité.
Oui, oui, oui. Mais après, quand on le vit et quand on est ado, c'est pas spécialement agréable.
C'est dur.
C'est facile de le dire après. De dire après, oui, c'est bien, il faut que tu t'ennuies.
Bien sûr.
Sur le moment, pas spécialement.
Ça fait un peu mal.
Ouais, voilà.
Et suite à cet épisode dont tu me parles quand tu avais 5 ans, est-ce que tu as pris des cours de musique ?
Et mes parents m'ont mis, en effet, un cours de musique avec une vieille dame qui était trop classe. Et je détestais ça.
C'est vrai ?
Ouais. J'aimais pas parce que je jouais on faisait jouer des morceaux qui me plaisaient pas particulièrement dans la mélodie. Et je pense que c'est assez essentiel. Je sais qu'il faut passer par certains morceaux, mais il faut qu'on les aime, ces morceaux, pour les jouer. Et moi, je les aimais pas particulièrement. Ça me faisait rien, en fait.
C'était du piano aussi?
C'était du piano, oui. Okay. J'ai pris des cours de piano. C'était des partitions que, je sais pas, à l'âge de 6-7 ans, les mélodies ne me plaisaient pas trop. Alors, je trichais. Parents maintenant le savent, mais je mettais ma partition et puis je m'amusais à faire mes mélodies, en fait. Et vu qu'ils n'y connaissaient rien, voilà, ils ne pouvaient pas trop déceler que je jouais un peu mes trucs. Voilà, je trichais, je faisais moitié-moitié.
Donc à l'époque, déjà, tu avais tes propres mélodies, tu avais tes propres...
Oui, après, elles étaient ce qu'elles étaient, mais je crois que dès le début, je préférais créer. Mais je crois qu'il y a quelque chose de très... autodidacte en moi. J'ai du mal avec les cours, quand on m'impose quelque chose. J'ai besoin d'une certaine liberté.
T'étais un cancre à l'école ?
J'étais pas un cancre, mais c'était tout le temps peut mieux faire. J'avais pas ma place.
Tu rentrais pas dans le moule ?
Vraiment pas.
Et comment s'est fait la transition ? Qu'est-ce qui a été un déclic pour toi pour te lancer dans la musique ?
J'ai toujours fait de la musique, donc ça m'a toujours intéressé. Vers 11-12 ans, je voulais m'acheter une guitare. Mais mes parents ne voulaient pas. Ils m'ont dit, tu t'en achèteras une quand tu auras la moyenne de t'en acheter une. Pour l'instant, tu fais du piano. Donc j'ai dit, ok. Donc dès que j'ai pu, vers 14 ans, on m'a offert une guitare. Enfin, j'ai fait de telle sorte que... Bon,
tu t'es débrouillé.
J'ai eu une guitare. Et c'est pile dans la période où je me suis mis à faire du skate et à trouver toute une bande en banlieue où on faisait tous du skate. Et là... Enfin, je m'étais trouvé et j'avais trouvé ma bande de potes.
Le skate, c'était un moyen de créer du lien.
Ouais, en fait. Parce que c'est pas que du skate en fait. Le skate, c'est toute une culture. C'est le graph, c'est le graphisme, c'est la musique, c'est plein de choses. C'est très riche en fait. Je crois que ça n'a pas beaucoup changé. Voilà. Et c'était un peu ce qu'on appelle le DIY, le do it yourself quoi. C'est-à-dire qu'on faisait nos autocollants, nos t-shirts. On faisait notre petite vidéo, on faisait déjà un peu de photos, tous ces trucs-là. Donc en fait, c'était hyper riche, moi ça me plaisait, c'était hyper créatif. Et puis j'avais l'impression d'être différent. Et de toute façon, je l'étais un peu, forcément, parce que je n'étais pas spécialement adapté à l'école. Ça m'a beaucoup plu. Et à partir de ce moment-là, donc, je me suis acheté une guitare. Et j'ai commencé à créer tout doucement des groupes avec des potes, parce que je voyais, j'ouvrais les magazines, je me disais « Ah, mais j'aimerais trop un jour jouer à l'Élysée-Montmartre », des salles comme ça, quoi. C'était des rêves de gamin, tout simplement.
Tu devais faire rêver les filles.
Je sais pas, tiens, c'est une bonne question. Je me suis jamais posé cette question-là.
Attends, au lycée, on est fan des mecs avec une guitare.
Ouais, c'est vrai. Bah non, moi, c'était plus le skate.
Okay.
Guitare, je cachais, j'avais mes petits groupes, mais c'était cool. Tiens, c'est marrant que tu me dises ça. Non, j'ai jamais vu ce truc-là. Enfin, j'ai jamais fait attention. Non, c'était plus le skate. J'étais content de faire du skate. J'étais dans mon truc.
T'étais dans ton
c'est
monde.
Tout. Je me disais, ouais, ok, je commence à être cool. Voilà, si tu veux.
T'es devenu
si
cool à aller, ce moment-là.
Voilà, tu vois, j'arrivais avec mes chaussures de skate au collège et tout. Je me disais, ok, je fais partie des mecs cool maintenant. Ça y est, enfin. Le social est important à l'école.
Bien sûr.
Tu vois.
Il faut avoir les bonnes chaussures et.
Ah ouais.
Et c'était dans la bonne bande de potes.
Pendant longtemps, je pouvais pas, moi, tout ça. Donc voilà, donc les filles, je sais pas, oui, ça devait être cool. Après, je suis venu aux filles assez tardivement, moi, je crois que... Ah non, mais là, je pars en...
Non, mais comme t'étais introverti, j'imagine
que c'était... Oui, bien sûr que c'était compliqué. Et souvent, je me rendais pas compte aussi que certaines filles voulaient éventuellement sortir avec moi. Je passais à côté, quoi. Puis j'étais à fond dans mon skate et ma musique.
T'étais un peu perché dans ton univers.
Ouais, avec le recul, je crois, quand même.
Tu voyais pas trop.
Ouais, donc ça arrivait tardivement, à 28 ans. Non, je déconne. non, mais tardivement.
Tu pourrais.
Ouais, oui, tout est possible. Et là, je suis parti très loin, là, non.
Je te ramène. Et du coup...
Tu me ramènes souvent.
Les études que tu as faites, elles étaient liées à la musique, à l'art. Est-ce que tu as fait des études après le lycée?
J'ai fait une école de graphisme qui faisait aussi de la sérigraphie. Et je suis arrivé là-dedans. Écoute, c'est, avec le recul, pareil, c'est assez hallucinant. J'ai mon pote qui faisait... on faisait des faux autocollants et des faux t-shirts, des trucs comme ça, tu vois. Bref, on les faisait nous-mêmes. Et un jour, je le vois arriver à Paris, au Trocadéro, où on faisait du skate aussi. Avec un vrai autocollant avec son nom et un t-shirt avec son nom. Mais là, j'ai halluciné. Je me suis dit, mais comment t'as fait ça? Ok, bon, on ramène ça. On avait 16-17 ans. Hein. Okay. Et il me dit, ouais, je suis dans une école de graphisme et tout. On fait nos t-shirts, nos autocollants, tu vois, c'est génial. Je lui dis, ok, je veux faire ça. Et donc, j'ai fait ça pendant, 3-4 ans, un truc comme ça. Et donc, je me suis initié à tout ça, voilà, parce que ça m'intéressait. Et puis, on faisait nos t-shirts déjà, nos affiches de concerts. À l'époque, c'était des. S'il y avait des CD, on faisait nos CD, tout ça, nos jaquettes.
Pour tes groupes de musique?
Pour les groupes que j'avais commencé à créer.
OK.
Voilà. Qui étaient dans un style musical assez. C'était du hardcore. Donc c'était.
Allez, d'accord.
Bah ouais. On était jeunes, il fallait qu'on crie. Voilà, on était même pas en colère, mais il fallait qu'il y ait de l'énergie, quoi. Voilà.
Et là, tu as rencontré Simon?
Ah non, ça c'est bien après. Simon, je l'ai rencontré il y a maintenant... Cette année, ça fait 20 ans que je connais Simon.
Ah oui, quand même.
Voilà, on s'est rencontrés en 2004.
Comment vous êtes rencontrés?
On s'est rencontrés parce que je faisais de la musique avec Vanessa Philo, qui est une amie qu'on a en commun. Et d'ailleurs, avec une autre amie, je fais la musique de ses films. C'est celle qui a sorti le Consentement il n'y a pas longtemps. Et donc, je faisais de la musique avec elle et j'entendais souvent parler d'un Simon qui était un de ses amis. Et un jour, elle me demande tiens, est-ce que mon pote peut passer au studio, voir comment ça se passe? Et quand je parle de studio, en fait, j'étais dans le 19e, dans ma cuisine. J'avais pas de studio à l'époque.
C'était un studio maison.
Un studio maison où je faisais tout dedans, où je m'improvisais producteur, etc. Et Simon passe, et puis on fait de la musique avant tout pour le plaisir. Enfin, tu vois, on s'amusait avec Vanessa, etc. Puis à un moment donné, on dit à Simon, tiens, vas-y, chante, ça pourrait être cool de faire un truc à trois. Et il chante. Et pour quelqu'un qui n'avait à l'époque chanté qu'une fois dans un concert d'un pote, je trouvais qu'il avait une voix assez hallucinante et une facilité comme ça, enfin tout en deux secondes. Et puis comme deux potes en devenir, on s'est dit, viens, on essaie de faire de la musique un jour ensemble. Et puis on s'est dit ça une, deux, trois fois, quatre fois. Et puis au bout de la quatrième fois, on s'est dit, bon, ok, allez, on se voit, je sais pas, lundi, et on essaye quelque chose. Je crois qu'un et l'autre, on sait pas pourquoi, on s'est dit oui, parce que moi, je me suis dit, bah ok, il va venir chez moi, mais je le connais à peine, qu'est-ce qu'on va faire? Attends, tu commences un projet à partir de rien, de zéro, on s'est même pas dit, viens, on va faire du, je sais pas, de la pop ou du hip-hop, non, il n'y avait même pas d'histoire de style ou quoi que ce soit. Et Simon débarque chez moi, et en une journée, on fait le premier morceau du premier album, Endless Song.
Incroyable.
Et moi, c'était vraiment la première fois où ce que j'avais en tête précisément, j'arrivais à le mettre, à le créer, vraiment. Et je pense que pour Simon, c'était pareil. C'était d'un seul coup, c'était une évidence, en fait.
C'était le fait de travailler ensemble qui faisait
ouais, complètement. Je pense qu'on allait...
Ça marchait.
Oui, de toute façon, je pense que quand tu es à deux, voire plus, mais surtout à deux, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas et c'est assez radical, je pense. Et là, je m'en rappelle, enfin, c'était génial, mais vraiment, je me souviendrai toujours de cette journée. Y a des voix qu'on a fait dans ma mini salle de bain pour que ça fasse une espèce de réverb et tout. C'était génial.
Vous deviez être excité en plus de
bah
créer
oui,
tout
ça. Bah oui, parce
que
d'un seul coup, t'as fait un morceau. Et moi, j'ai toujours gardé ce côté non professionnel. Enfin, je veux garder une innocence dans la musique encore aujourd'hui. Si tu me demandes si je sais faire du piano, je vais souvent te répondre oui, je bricole. Voilà. Alors que je sais en faire. Mais je veux garder une certaine innocence. Donc, on était très heureux d'avoir réussi à faire un morceau qui sonne et puis surtout qui était exactement ce qu'on vivait à ce moment-là déjà. Tu crées quelque chose qui est évident. Et ça, c'est rare, en fait. Surtout sur une rencontre comme ça et surtout à deux.
Et en parlant du lien qui vous unit, disiez dans une interview, on a des hauts et des bas comme tout le monde, et le fait d'être deux, ça permet de se porter l'un l'autre dans la tempête.
Oui, complètement, c'est super d'être deux. Déjà, moi j'aime bien partager les choses, mais même dans ma vie. La solitude, c'est sympa, mais deux minutes, je trouve. Voilà. Et bien sûr, par exemple, pour le premier album, ça a été vraiment incroyable. Et en même temps, il y a eu des passages... très compliqué, forcément. Moi, heureusement, j'avais fait de la scène avant. Simon n'en avait jamais fait. Et on se retrouve d'un seul coup avec un album qui marche très, très bien. Et puis, des concerts qu'il faut faire devant 2000 personnes. On n'a pas fait de première partie.
Vous n'avez jamais fait de première partie ?
Jamais. On est arrivé tout de suite, il fallait faire des scènes. Et c'est génial. OK. Mais il faut être prêt. Et il faut essayer de ne pas te décevoir. Et si tu déçois, ce n'est pas si grave que ça. Mais en tout cas, il faut essayer de faire encore une fois ce que tu as en tête. Et ce n'est pas évident. Parce que tu te retrouves en effet dans une tempête où d'un seul coup, tu te retrouves à faire des télés. Mais en même temps, il faut préparer des concerts qu'on n'a jamais fait. Trouver des musiciens, mettre au point les lumières.
Vous aviez un producteur qui vous aidait ?
Oui, on avait un super producteur. Zamora Productions. Et qui nous a donné les moyens de nous entraîner, de faire...
De vous professionnaliser aussi.
Ouais, de faire... Moi, je savais, pour le coup. Mais Simon, non. Et c'est là où, justement, le fait d'être deux, c'est génial. Parce que moi, je le soutenais dans certaines choses. Lui me soutenait dans d'autres choses. C'est précieux, en fait. Donc voilà pour les débuts. Puis même, dans la composition, c'est toujours bien. Parfois, tu fais un morceau, tu dis, c'est pas génial. Et puis, t'as l'autre qui rebondit tout de suite. Non, si, on peut faire ça, et ainsi de suite. Et puis tu partages des moments aussi, tout simplement. Tu crées une histoire, tu creuses un sillon avec des hauts et des bas, forcément, mais ça c'est la vie. La finalité, c'est que ça fait quand même 20 ans qu'on se connaît maintenant et c'est génial. Voilà, c'est cool. On se voit grandir,
vous avez
on
envie
évolue,
de continuer ensemble.
L'un et l'autre. Oui, bien sûr. Ouais. Après, il faut avoir des choses à dire, etc. Donc pour ça, on a besoin de voyager, mais ça sera ta prochaine question, je pense.
Comment on compose une chanson ?
Comment on compose une chanson, c'est un besoin. Ça va être un événement qui me traverse et je vais me poser au piano. Souvent, ça vient du piano ou de la guitare. Et j'ai besoin de l'exprimer en musique plus qu'en parole ou plus que de parler avec quelqu'un.
Techniquement, comment tu composes ?
Souvent, je pose mes mains sur le piano et je me dis « Ok, let's go, on va voir ce qui vient ». Parfois, il n'y a rien. Et puis parfois, il y a quelque chose qui vient et je commence à construire les choses comme ça.
Donc tu construis d'abord la mélodie et après les paroles ?
Les paroles, c'est Simon qui s'en occupe. Les paroles et les mélodies de voix. Et puis parfois, il arrive en effet avec des compos, piano, ou parfois juste avec un refrain. Moi, je vais trouver le couplet ou l'inverse.
Donc toi, tu lui proposes déjà un son ?
Ouais, je lui propose un son et c'est arrivé. Oui, je lui propose un son. En fait, il y a plusieurs choses. Par exemple, pour le dernier album qu'on a sorti, là, t'es à Josué Attri, dans un autre type de vie.
Aux États-Unis.
Ouais, et je sais pas, je trouvais ça génial, là, ce ciel et tout. Enfin, il n'y avait rien, en fait, une maison au milieu du désert. Et j'étais avec ma femme à l'époque et on n'avait besoin de rien d'autre, quoi. C'était génial, tu regardais le ciel, les couleurs qui changent et tout. Et je sais pas, ça m'a inspiré un morceau. Et c'est souvent le point de départ pour nous deux. C'est-à-dire qu'il y a un morceau qui représente le début de l'album et le début du travail.
Et qui va donner le
ton. Il faut un déclencheur. Sinon, je pense que l'un et l'autre, c'est pas 5 ans entre chaque album, ça serait bien plus long. Donc voilà, mais il faut que ça soit un besoin. On n'a pas envie de remplir des cases du tout.
C'est pour ça que
moi,
vous prenez le temps.
C'est parce que j'étais là-bas, ça m'a inspiré ça et c'était... J'ai ressenti quelque chose et ce quelque chose, je l'ai traduit en musique. Et je voulais partager ça avec Simon.
Prendre le temps, parce que parfois il se passe 2, 3 ans, 5 ans entre deux albums.
Ouais.
Prendre le temps, c'est un luxe. Est-ce que ça ne fait pas peur? Est-ce qu'on ne se dit pas qu'on va être oublié?
C'est le risque à prendre.
Vous l'avez pris et finalement,
ouais,
ça marche toujours.
Je ne sais pas, oui, tout va bien pour l'instant. Mais c'est le risque à prendre. Tout va très très vite là.
Vous avez besoin de ralentir?
Bah, déjà, quand on sort un album, après on part en tournée pendant un an et demi. Donc déjà, tu enlèves un an et demi à ces années. Après, il faut composer l'album. Ça prend du temps. Enfin, nous, on prend du temps. Ça prend à peu près... ça dépend, ça peut prendre un an, deux ans. Et puis après, il faut préparer la sortie de l'album. Donc tout ça, au final, finalement, cinq ans, c'est court.
C'est pas énorme.
C'est long dans une vie globale, mais... entre deux albums, finalement, c'est assez court et on ne veut pas courir après les choses. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Et Simon et moi, je crois que notre point en commun, c'est qu'on vit des choses et c'est le monde qui nous traverse et on traduit, là en l'occurrence, en musique et en texte. Et si rien nous traverse, ben on fait autre chose avec d'autres médiums, mais pas en musique. Ça ne sert à rien de remplir des cases. Ça sonne faux après. Mmh. Tu vois, et puis moi, je me vois mal... parler de chansons, de morceaux qu'on a créés, si j'y crois pas, en fait. Si c'était juste parce qu'il faut sortir des choses là, maintenant, tout de suite, parce que maintenant, tout est dans un flux absolument... faut nourrir ce monstre Internet, là. Le flux constant. Bah non. Il y a un risque, mais tant pis, on le prend.
Et vous êtes fait connaître avec la chanson U-Turn, Lily, issue de la BO du film Je vais bien, ne t'en fais pas. Quel souvenir gardes-tu de cette période-là? Donc c'était un peu les débuts. Peux-tu nous raconter ce qui s'est passé?
C'est le titre qui nous a mis en lumière. Voilà, pour moi c'est ça. C'était incroyable pour tout le monde, cette chanson. Pour le film, pour les acteurs, pour nous, ça a été une explosion d'un seul coup.
C'était une surprise? Vous attendiez pas
non, mais
un tel engouement?
C'était une surprise pour nous. Hein. On se dit pas, tiens, on fait un titre et... ça va cartonner. Non, pas du tout, heureusement. Donc oui, c'est une surprise. Et puis surtout à l'époque, c'était, c'est en anglais. C'est pas une musique super happy, on va dire. Donc les maisons de disques voulaient pas de nous. La radio, on n'y pensait même pas. Mais les choses ont pris un autre chemin. Et ça, c'est un beau cadeau.
Les maisons de disques, ils aiment pas les chansons un peu tristes?
En tout cas, à l'époque... c'était en anglais, donc ça rentrait pas dans les quotas et c'était un peu triste. Il y avait pas vraiment de refrain pour eux, donc
il fallait que ce soit une musique de film, en fait.
Oui, mais même une musique de film, ça veut tout et rien dire. On a eu plein des musiques de film. Je sais pas. Là, c'était le bon moment, la bonne époque, le bon film. Ça se maîtrise pas ça, et franchement, tant mieux.
Et ça a été une déferlante?
Oui, oui. Et là, on revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'il y avait des parties vraiment absolument géniales. Mais l'autre partie, c'est que tout a été très, très vite pour nous. Et heureusement, l'album était quasiment prêt. Quand je te parle d'album, nous, on ne pensait même pas à l'album. On faisait des morceaux et il s'est retrouvé que ça faisait une suite de morceaux qui donnait un album. Mais on ne s'était pas dit, on va faire un album. Après ce titre-là, on sort l'album. Non, enfin, tout était...
Mais il fallait sortir un album quand même après ce titre.
Oui, mais heureusement, il était prêt avant, sinon je pense que ça aurait été une catastrophe. Donc voilà, tout était quasiment prêt. L'album est sorti au mois de janvier 2007.
C'est dingue le pouvoir de cette chanson, parce qu'elle a marqué toute une génération. Enfin.
Oui, c'est fou. Et quand tu sais comment elle a été faite, donc dans une cuisine, enfin voilà, on venait de se rencontrer avec Simon, enfin, c'est fou. Et en même temps, dans ce titre, il y avait autre chose, je sentais encore autre chose, mais... loin, très très loin du succès qu'elle a eu après. Voilà,
donc cette chanson, c'était pas une commande, c'est vous qui l'avez faite et on vous l'a...
Non, on n'a pas fait de commande du tout. En fait, Simon connaissait Mélanie Laurent et puis ils se sont croisés, je crois, à une soirée. Et nous, on disait pas trop qu'on faisait de la musique, on gardait ça dans notre coin. On s'amusait, c'était cool. Enfin, s'amuser, on créait en tout cas. Et un jour, il en parle à Mélanie, lui dit, parle du groupe, et puis elle dit, mais fais-moi écouter. Et elle a adoré, et il l'a fait écouter à Philippe Yorel, le réalisateur de Je vais bien, ne t'en fais pas, parce qu'ils étaient, je crois, en plein tournage ou en montage, un truc comme ça. Non, en tournage, ça s'est fait comme ça.
Vous écrivez des textes qui prennent aux tripes et mettent en lumière vos émotions les plus profondes. Mmh. Est-ce que la musique, pour toi, doit forcément secouer un peu l'auditeur?
Sincèrement, je ne pense pas à l'auditeur quand je compose. C'est, comme je te disais tout à l'heure, c'est un besoin, c'est avant tout pour moi, donc pour Simon et moi. C'est comme un langage, c'est des choses que je n'arrive pas spécialement à, ou que je n'ai pas envie d'exprimer par des mots ou un dessin ou des photos. Et c'est un, ça vient comme ça, c'est, que, c'est fiévreux en fait. Mais je ne pense pas à l'auditeur, ça on y pense après. Une fois que le morceau est fait, on se dit tiens, ça peut être cool en concert. Non, faut que ça soit au plus proche de nous. C'est ça le plus important, de nos émotions. Le but, c'est ça, c'est de rester au plus proche de ce qu'on veut dire et de l'émotion au moment de la création du morceau.
Tu exprimes tes émotions justement à travers la musique, à travers la photographie, à travers d'autres médiums. Mmh. Est-ce que dans la vraie vie, tu te confies facilement ?
Dans la vraie vie, quoi la fausse vie ?
Est-ce que dans ton monde artistique, c'est en quelque sorte assez facile de coucher des émotions ? Enfin, pas facile, mais
oui, est-ce tu peux que jouer c'est pas plus dur ? Non, écoute, je viens d'une famille où on ne dit pas trop ses émotions. Et donc, longtemps, je ne l'ai pas dit, ou je le cachais bien dans mes compos, je pense. Je m'en rends compte maintenant. Et maintenant, j'ai plus peur du tout de donner mes émotions. Enfin, cette partie-là est très importante chez moi et on est tous pareils. Enfin, on a tous des émotions et pourquoi ne pas en parler ? Donc, non, j'ai pas peur d'en parler, bien au contraire.
C'est en grandissant que t'as laissé de côté cette peur-là ou...
Ouais, bien, bien grand. Hein. Et encore des choses qui se passent depuis pas si longtemps, vraiment. Même à mon âge un peu plus avancé, je découvre encore plein de choses depuis là, quelques mois. Comme si j'étais projeté dans un autre monde et qu'on n'avait pas le choix. Mais c'est pour le meilleur, c'est cool. Et donc mes émotions, oui, depuis, je pense, quinzaine d'années, je m'ouvre de plus en plus. Plus ça va, moins j'ai peur. Parce que de toute façon, qu'est-ce qu'on risque au final ? Et puis je trouve ça bien.
C'est un peu une généralité, mais souvent les hommes sont assez pudiques, ils ont plus de mal à
peut-être. Alors, je crois que ça s'ouvre un peu, ça change. Je sais pas. Écoute, moi la plupart du temps, j'étais avec des filles à l'école. Je sais pas. Je crois qu'il y a des trucs qui me parlaient plus. J'étais pas trop à foot, tous ces trucs-là. Ça me peut-être une sensibilité que je préfère parce que je crois que j'ai une sensibilité que je laisse, que j'utilise en fait dans l'art, dans la création.
Et ton fils, tu l'éduques dans... Justement,
L'éducation.
C'est un grand chapitre.
Ouais.
Tu lui transmets justement cette envie de parler, de s'exprimer. Tu lui dis « je t'aime » facilement.
Ouais, exactement. Je crois que c'est à partir du moment où mon fils est né que j'ai eu des facilités à dire « je t'aime ». Voilà, je crois que c'est quasiment né avec lui.
Ça a été une révélation pour toi de devenir père ou pas ou ça a été un apprentissage ?
Waouh !
Ça a été facile ?
C'est un
pas
sacré
facile.
Apprentissage. Je me suis beaucoup occupé de mon frère et on avait 10 ans d'écart, il était plus jeune. Donc j'ai ce rapport un peu. Je savais ce que c'était de tenir un bébé dans ses bras. Ça va. L'éducation. C'est une autre histoire pour moi, parce qu'ils sont jeunes et en même temps, pour mon fils, j'ai envie de lui laisser sa liberté. Il y a l'école, ok, il y a la vie, il y a tout à ranger, à payer, j'en sais rien, bon, tous ces trucs de la société, que la société a mis en place. Mais je privilégie sa jeunesse et le fait d'avoir des potes, etc. Et puis s'il doit faire des petites bêtises, qu'il les fasse.
T'es un père cool ?
Ouais, mais trop, trop.
Donc la maman t'en veut ?
Sa maman, non, on fait ce qu'on peut, parce qu'on a aussi nos qualités, nos défauts. Mais l'éducation, c'est un sacré truc, c'est difficile, c'est très difficile. Je crois qu'on fait du mieux qu'on peut, et le principal, c'est de donner de l'amour. Mais c'est très difficile, moi je peux, s'il doit y avoir je déteste ce mot, mais une punition, et moi ça dure 3 minutes, puis après je vais faire n'importe quoi avec lui, donc ça marche pas. Et ça, c'est pas bien, je sais, mais je sais pas faire. Voilà. Donc, voilà. Il y a des conséquences après. Je sais pas, l'éducation, c'est pas mon truc.
Est-ce qu'il y a des valeurs que tes parents t'ont transmises, que tu aimerais lui transmettre ? Est-ce que eux, ils étaient plutôt cool dans l'éducation qu'ils te donnaient ou plutôt strict ?
C'était un peu strict. Ouais. Moi, l'adolescence, j'ai pas eu d'adolescence où je suis parti dans tous les sens. Parce qu'ils travaillaient tous les deux beaucoup, beaucoup, et quand ils rentraient le soir, enfin surtout mon père, voilà, ça plaisantait pas
ça
trop.
Ça filait droit.
Mais tout ça avec beaucoup d'amour, vraiment. Et puis pareil, il faisait du mieux qu'il pouvait. Voilà, il travaillait beaucoup, était très fatigué. Et forcément, fallait pas trop bouger le soir. Voilà, c'est tout. J'étais dans mon coin, je faisais mes Lego où je dessinais. Et puis voilà, mais tout ça, j'en ai fait une force.
T'en as pas souffert de cette discipline ?
Si, forcément un peu, bien sûr. Mais après, t'as le choix. Enfin, t'as le choix. T'as parfois le choix où il y a des choses en toi qui font que tu plonges. Pas du bon côté, où il y a des choses où tu te nourris de tout ça et tu vas ailleurs. Et moi, j'en ai fait quelque chose de positif, tout ça. Je te dis ça, ça va, tout va bien hein, avec mes parents. Ils m'ont donné beaucoup d'amour, ils m'en donnent toujours. Mais c'est là où je te dis, en tant que parent, on fait du mieux qu'on peut. Et je pense que le principal, c'est de garder le lien avec ton enfant, quoi qu'il arrive, et l'amour. Après, on fait tous des grosses bêtises, je pense, avec nos enfants. Et mes parents en ont certainement fait. Et voilà, mais moi, j'en ai fait une force, en tout cas. Voilà.
Oui, puis c'est important de rester à l'écoute de son enfant. Et après, on a chacun ses principes.
Oui, voilà, de toute façon, tu sais, les familles, ça peut être vite compliqué quand même. Mais non, ça va.
Est-ce que tu cherches à transmettre ton amour de la musique et de la créativité à ton fils, ou est-ce que tu le laisses faire ses propres découvertes et tu te dis que s'il y vient, tu lui montreras, mais tu ne veux pas l'aiguiller?
Je cherche à lui montrer au-delà. Ce n'est pas parce que je fais de la musique que j'ai envie qu'il fasse de la musique. Je pense qu'il faut qu'il trouve sa voix, c'est hyper important. Le seul truc que je peux lui dire, c'est de rester curieux. C'est ce qui m'a beaucoup sauvé tout au long de ma vie, de rester ouvert à tout ce qui se passe. D'aller vers les gens, parfois, vers lesquels on n'irait pas particulièrement. On a tous des choses à sa portée. Et d'écouter des styles de musique, si on reparle de musique, qu'ils n'écouteraient pas spécialement. Voilà, il y a toujours des trucs à prendre. Donc la curiosité, pour moi, c'est hyper important. Et il écrit, comme beaucoup de jeunes de son âge aujourd'hui, de 16 ans, pas mal de hip-hop. Donc c'est super, on échange beaucoup là-dessus, parce que moi, je l'écoute pas mal aussi. Et on se retrouve sur certains groupes, et puis sur... il écrit beaucoup, en fait. Et je trouve ça génial, parce qu'il y a peu de temps, j'étais ici, là, à table, j'étais derrière mon ordi, en train de composer des trucs, et puis lui, je le voyais, il était là, et puis il était en train d'écouter ses compos, et puis de chanter un peu dessus. Puis j'ai commencé à enlever mon casque, puis j'ai commencé à l'écouter, et je savais qu'il avait envie que je l'écoute. Et après, du coup, il a fait son rap là devant moi, et je me suis assis à côté de lui. On a beaucoup échangé sur ses textes, et c'était super intéressant parce qu'il a une passion du texte. Et il ciselait tout, il me racontait pourquoi il avait dit ça, pourquoi il avait utilisé tel mot, et sa passion justement de dire tiens, mais je viens de trouver ce mot là, et c'est génial. D'un seul coup, c'était incroyable. Et c'est cool qu'il ait la passion d'écrire des textes.
C'est chouette qu'il fasse ça à son âge.
Ouais, c'est génial. Tout ça pour dire quoi, je ne sais plus, je me suis encore perdu, voilà, il faut qu'il soit libre, et bien sûr s'il y a des choses qui l'intéressent, je suis là. Je lui ai déjà fait quand il était petit une compo et un clip pour ses potes. Ils sont venus dans mon studio, bien sûr que je le fais.
Tu devais être impressionné.
Pouvoir impressionner, je sais pas, non, mais c'était cool, j'étais dans un vrai studio de ça, donc c'est rigolo. Et puis je leur ai fait leur clip et tout. Ils avaient quel âge? Ils avaient 12 ans. Donc voilà, s'il a besoin, je suis là. Et bien sûr, je le pousse un petit peu, mais pas spécialement dans la musique. Je le pousse à être curieux, c'est tout. Et à travailler, s'il veut faire quelque chose. À travailler, s'il veut faire du texte ou des prods, ça, il n'y a pas de secret, il faut travailler. Voilà.
C'est le travail avant même le talent.
Non, c'est un mélange des deux, je pense. Le talent, tu peux vite le brûler si tu ne travailles pas. Et parfois, tu peux aussi beaucoup travailler, ne pas avoir de talent, et c'est difficile. Puis au-dessus de tout ça, il y a aussi une partie chance, quand même.
Je voudrais revenir un peu sur l'amour.
Gros chapitre.
Gros chapitre.
Ouais.
Tu prends beaucoup, tu photographies beaucoup de couples, des amoureux qui s'embrassent dans les rues de Paris. C'est des photos très poétiques. Est-ce que tu crois en l'amour durable ?
Bah oui. oui, bien sûr. Ouais, je trouve ça génial. Je trouve qu'il n'y a rien de plus beau, en fait. Après, ça dépend dans quelles conditions il dure. Si c'est pour, au final, te disputer tout le temps, et je ne sais pas si c'est bien, mais parce que tu as des couples qui durent toute leur vie, mais c'est compliqué, quoi. Mais je trouve ça beau de traverser cette vie ensemble, quand tout se passe bien. Et c'est rare Et c'est de plus en plus rare, parce que...
C'est un travail, le couple.
Ouais, c'est un travail de respect, d'écoute de l'autre, on évolue tous, on grandit, on change. Même si j'ai un centre, je sais que je suis pas la même personne qu'il y a une quinzaine d'années. Forcément, et heureusement. Et ça, quand t'es en couple, il faut l'accepter aussi. Et ça passe beaucoup par le dialogue. Et puis parfois, l'amour s'en va, tout simplement. Ou parfois, tu franchis certaines limites, tu dis certains mots qui font que ça brise aussi. Voilà. C'est comme ça, mais c'est compliqué, l'amour. Voilà. Mais oui, j'aime les amours longs. De toute façon, moi, j'ai eu que des grandes histoires.
Comment est-ce qu'on guérit d'un cœur brisé ?
Ah, putain, ben ça prend du temps, hein, tu sais. Comment on guérit ? Est-ce qu'on guérit ? Je suis pas sûr. Je crois qu'on apprend à vivre avec.
C'est comme un deuil, en fait. On porte toujours la personne
c'est
en soi.
C'est différent, parce qu'en fait, c'est comme un deuil, mais la personne est là. Et parfois, elle soit un temps, de toute façon, où tu ne te parles plus. Et puis, moi, mon souhait le plus cher, à chaque fois, c'est de parler ensuite avec la femme avec laquelle tu étais, tu vois, la mère de mon fils. On se parle aujourd'hui et j'adore ça, je trouve ça génial. Tu vois, pourquoi pourquoi dans l'amour, on doit avoir autant d'amour que de haine à la fin ? Enfin, y a quand même un truc assez étonnant.
Il y a forcément, une période
forcément.
Où on ne peut pas passer de,
non, de ça à
d'une pote. Intimité immense.
Mais complètement. Donc c'est très spécial. Et c'est un deuil, mais en même temps, la personne est là et elle refait sa vie. Et toi aussi, tu refais ta vie. Tu es projeté dans un autre monde. C'est très étrange.
Ça peut être brutal.
C'est brutal. Moi, c'est assez récent, là, donc ça va beaucoup mieux, mais tu comprends rien, tu manges plus, il ne se passe plus rien, tout est vide. Et en même temps, il y a des choses qui naissent. Tu vois, par exemple, la photo, j'ai toujours fait de la photo, mais ça a grandi. D'un seul coup, j'avais une autre sensibilité, je ne voyais plus la ville. Paris était complètement différent. Paris était parfois vide de sens. Parce que d'un seul coup, t'as limite plus de raison de vivre. Enfin, tu vois, c'est très étrange.
Puis on voit la personne qu'on aime partout dans Paris.
Bah
partout,
ouais, c'est vrai.
Où on a vécu avec elle.
Exactement, grand classique. De toute façon, on va rien réinventer. Hein. Mais en même temps, je voyais les choses, des détails de manière complètement différente. Et je me suis dit, ok. Enfin, je me suis rien dit. C'est juste, j'avais mon appareil tout le temps sur moi et je prenais des photos de détails parce que j'irais beaucoup plus. Mais c'est la belle errance, c'est pas l'errance dépression, quoique s'il y en a eu un peu quand même, si je suis un peu honnête. Mais j'en ai fait quelque chose, j'ai essayé d'en faire quelque chose de beau. Je crois que c'est mon instinct qui m'a dit, enfin qui m'a rien dit du tout. Je crois que c'était un besoin. Je pouvais plus faire de musique, je pouvais plus rester enfermé dans une pièce, même dans une salle de ciné, tout ça, c'était pas possible. Donc j'étais beaucoup dehors, ça tombe bien, il faisait beau.
Quand t'es triste, ça te... T'arrives plus à composer.
Là, en tout cas, je pouvais plus. Non. Et j'ai appelé une amie. Je lui dis, je suis vide. Là, j'y arrive plus. Il y a plus rien. Et elle m'a dit, mais Olivier, non, pas du tout. Regarde toutes tes photos. Voilà, il y en a plein et ça exprime quelque chose. Je lui dis, mais ah ouais, mais c'est vrai. Je me rendais même pas compte que je faisais plus de photos, etc. Que j'avais un autre œil qui était en train de se former. Et c'est fou.
C'était une sorte de thérapie, la photographie.
Bah ouais,
à ce
mais je m'en suis pas rendu compte du tout. Du tout. Et c'est vrai, je rentrais parfois à 3h du matin, parce que forcément, on sort un peu plus. Et pas de nature à sortir trop tard, moi, vraiment. J'ai une vie assez cool. Et là, d'un seul coup, je découvrais un autre monde. Et je voyais ces couples qui s'embrassaient en sortant de boîte, en sortant d'un bar, etc. Et je trouvais ça génial, je trouvais ça trop beau, c'était assez sauvage. Et je me suis mis à prendre ces couples et je me suis posé plein de questions sur vraiment les débuts, la première étincelle, le début de l'amour. Qu'est-ce qu'on peut dire ou pas ? Qu'est-ce qu'on s'autorise à dire ou pas ? Parce qu'on a peur, on se dit, mais si je m'emballe, là, je parle des premières heures ou des premiers jours, si je m'emballe, l'autre, je vais lui faire peur. Vous savez comment ça se passe tous.
Bien sûr.
Voilà. Et en même temps, ben là, ouais, mais j'ai envie de m'emballer un peu parce que j'ai envie de lui dire que je l'aime et que c'est cool. Et même si c'est cool, là, juste une heure, et si ça fait qu'une heure qu'on se connaît, ben c'est génial, hein, en fait. Et j'ai envie de lui dire que là, j'adore ce moment et que je l'aime. Et parfois, on n'ose pas, en fait, parce que ça fait peur à l'autre et l'autre peut fuir. Et je me suis posé beaucoup de questions sur tout ça, sur vraiment la naissance de l'amour. Qu'est-ce qu'on a droit de dire ? Qu'est-ce qu'on s'autorise à dire ou pas ? Et je sais pas, j'ai pas la réponse. Puis ça dépend de la personne que tu rencontres, mais ces premiers instants, ils sont précieux, magiques et c'est essentiel quand même.
Tu disais que tu avais vécu une rupture récemment. Tes potes, ils ont été importants dans ce passage-là ?
Ah ouais, carrément, bien sûr. Bien sûr, mais... ouais, tout le monde a été important. Mais il a fallu que j'apprenne... J'ai quasiment jamais été seul, moi. Il a fallu que j'apprenne ça. Et c'est vertigineux. Et en même temps, je pense que c'est essentiel.
Tu apprends à aimer la solitude ?
Non, j'aime pas ça. Non, sincèrement, non. Mais je pense que c'est important de passer par là. Moi, j'aime bien le partager les choses. Enfin, voilà, partir en voyage et partager ça avec un pote ou ma copine ou mon fils. Je trouve ça quand même riche. Mais j'ai besoin de mes moments de solitude, ça c'est sûr. Mais ça n'a rien à voir, en fait.
C'est des moments un peu de décharge, les moments où tu es seul. Mais par contre, quand tu vis des belles choses, tu as envie de les partager avec les gens que
tu
aimes.
Tu sais, c'est des métiers où on est quand même déjà... Il y a beaucoup de solitude dans ces métiers, mais qui est nécessaire. Mais voilà, je suis seul à composer, ou on est juste à deux avec Simon à composer. Et après, on partage ça avec beaucoup de personnes. Mais le moment de création, il est souvent solitaire. Donc, te rajouter ça après dans ta vie amoureuse ou amicale, non. Et puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà assez seuls. On est tous derrière nos ordis, nos téléphones, à s'envoyer plein de SMS pour briser une solitude, mais ça ne suffit pas.
Est-ce que tu peux me parler du partage avec le public en concert ? Qu'est-ce qu'on ressent devant des milliers de personnes ? C'est un peu un rêve, je trouve, de vivre cette adrénaline-là. Qu'est-ce que tu ressens sur scène ?
Ben, je ne sais pas ce que je fais sur scène.
Est-ce que tu as la trouille
déjà ?
Moi maintenant.
Mais je suis de nature assez timide, réservée, et je ne sais pas pourquoi. Il y a un truc qui... Donc, je ne devrais pas faire de scène. Mais ça, je ne suis pas le premier artiste qui va te dire ça. On est souvent assez comme ça.
Après, on se construit un peu un personnage aussi.
Non.
Non ? T'es toi-même ?
Ah ouais, sur scène, non, je ne sais pas faire ça. Pas encore.
Mais donc, du coup, ta timidité naturelle, elle...
Je ne sais pas, ça s'en va. Et puis, parfois, je peux vite paniquer si je ne suis pas à l'aise. Alors, ça ne se verra pas. Hein. Mais c'est rare, c'est très rare. C'est des sensations que tu ne retrouves pas ailleurs. Je n'ai jamais retrouvé ça ailleurs, sauf une fois avec Simon. Quand on s'est arrêté, on était sur la côte ouest à Los Angeles. On a été dans le désert. On a arrêté la voiture. Et il y avait le désert tout autour de nous. C'était le cliché absolu, c'est-à-dire la route sans virage et le désert tout autour. Et là, il y avait juste le bruit du vent. Et je me suis dit, waouh, c'est ok, j'ai jamais vécu ça ailleurs non plus. Et ça s'est rapproché d'un concert, c'est-à-dire des moments uniques, vraiment, et que tu vis très rarement. Donc, c'est ça un concert, c'est une décharge d'énergie. C'est sans le public, sans l'énergie du public, sincèrement, il ne se passe pas grand-chose. Donc, c'est vraiment un échange. Parce qu'on les voit, vos visages. On voit tout. Non, j'adore ça. Après, à un moment donné, il faut que ça s'arrête. Parce que c'est un peu une drogue. Et puis, t'en as un peu marre, je pense. Il est temps de revivre, reprendre
ta vie.
C'est
un rythme un peu particulier, les tournées.
C'est un rythme très particulier, très fatigant. C'est beaucoup d'attentes. C'est parfois, assez souvent en hiver. Donc, tu te retrouves dans certaines villes. T'es là, dans les loges et tout. C'est
un peu cafard.
C'est un peu compliqué. Mais cette heure et demie ou ces deux heures sont incroyables. Et ça vaut le coup d'attendre une journée entière.
Vous avez collaboré avec Mylène Farmer récemment.
Ouais.
Est-ce que tu peux me parler de ça ?
Oui, c'est né pareil d'un besoin. Ce morceau, il est né ici, sur ce piano-là. On était en plein confinement. Et moi, ce confinement, je l'ai assez bien vécu. J'étais ici, il faisait beau, j'étais sur mon balcon. Je ne comprenais pas les gens qui s'ennuyaient. Je trouvais ça bizarre. Mais en même temps, si, je comprends. C'est parce que moi, je suis créatif. Et au contraire, c'était « Waouh, ok, le temps ralentit. J'ai le temps de me remettre au piano. Je m'y suis remis beaucoup. J'ai le temps de redessiner, de faire d'autres choses. Super. » Je peux comprendre que c'était la panique pour certaines personnes. Et Simon habite pas très loin de chez moi. Et je m'étais dit, ok, comment on va garder le contact ? Et je ne sais pas, m'est venue cette idée. Je me suis dit, tiens, je vais lui envoyer des lettres musicales. Je vais lui envoyer des pianos, parce qu'en ce moment, je me remets au piano. Et puis, s'il a envie, il m'enverra dessus des voix. Donc, on a fait ça. Donc, ce morceau est né comme ça. Pendant le confinement, j'avais besoin d'écrire ce truc-là. Je trouvais la mélodie cool et tout. Et puis, lui, il l'a adoré. Il m'a envoyé un texte chanter dessus.
Donc Mylène, t'es pas du tout encore
pas
dans les
tout.
Parages.
Pas du tout. Et puis après, on s'était croisés, je crois, avec Mylène sur le premier album. Et sur ce morceau, on s'était dit, tiens, une voix de femme, quelque chose qui perce d'assez céleste comme ça, ça serait génial sur ce morceau. Et on a pensé à Mylène, donc on lui a envoyé le titre. On a travaillé ensemble, elle a posé sa voix et tout. Et puis après, au fur et à mesure des discussions, elle nous a demandé si elle pouvait le mettre sur son album. Bien sûr, on a dit oui, c'est génial.
C'est un cadeau.
Ouais, vraiment, puis elle est géniale, quoi. Et ensuite, elle nous a fait la surprise de nous demander de jouer ce titre en plein milieu de son concert sur les, je sais plus, 12 ou 13 stades.
Vous avez fait plusieurs dates l'été dernier.
Ouais, on a fait toutes les dates. Et puis là, on fait le Stade de France, ouais, Stade de France au mois de septembre, les trois dates là. Donc c'était incroyable. Non, c'était fou. C'est incroyable, c'est ça que j'adore dans la musique, c'est que d'un seul coup, t'as des choses qui tombent comme ça, t'as plus le choix, ça crée des connexions de dingue. Ce morceau, il est né ici quand même, tu vois, en plein pendant le confinement, et ça devient un morceau qu'on joue à plusieurs devant 50, 60, 70 000 personnes, c'est fou quoi. Tout ce rapport-là, c'est en même temps vertigineux et en même temps... Bah, c'est les surprises de la vie, voilà. J'adore ça.
Et puis
bien.
C'est l'essence même de votre travail, c'est de coucher vos propres émotions sur le papier et après de les transmettre et de créer des chemins.
Mais complètement. Et bizarrement, plus c'est proche, plus les textes, plus la musique sont proches de toi, plus c'est intime, plus les gens se retrouvent dedans. Et nous, on ne sait pas faire autrement. De toute façon, avec Simon, il faut que ça soit... quelque chose de vrai. C'est facile d'écrire des belles paroles ou une belle mélodie qui fonctionne, qui est bien dans les cases, mais enfin facile, non, pas spécialement, mais en tout cas ça ne nous intéresse pas. Voilà.
Votre album We Cut the Night, sorti en 2015, saisit des instants fugitifs. C'est un hymne à la liberté, une renaissance.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Est-ce que c'est votre album le plus lumineux ?
Bah, c'est très drôle parce que parfois on va trouver qu'un morceau est lumineux et les gens vont le trouver hyper dark. Et l'inverse aussi. Je crois que ce qui est intéressant, et je crois que c'est ce qui est primordial, c'est que chacun aura sa propre interprétation des textes, souvent, parce qu'en fait, on parle d'autre chose et la personne va comprendre autre chose. Et moi, je trouve ça génial, finalement. Tout est libre. Enfin, on a dansé sur combien de titres tous. On se dit, ah ouais, mais c'est génial. En fait, les paroles sont hyper tristes. C'est juste ça danse, c'est tout, mais les paroles sont...
C'est la mélodie.
Ouais,
qui...
c'est hyper triste, mais c'est génial, j'adore. Et donc je sais pas, non, cet album, il y a des côtés très 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 noirs, mais d'ailleurs c'est marrant parce que avant, on a fait un grand voyage avec Simon sur la côte ouest où on s'est arrêté justement, ce que je te disais tout à l'heure, en plein milieu du désert là. Et c'est aussi inspiré par ça, par les grands espaces, tout ce qui est minéral, etc. Tout. C'est quand il n'y a plus rien, qu'il faut tout refaire. Hein. Que tu as juste une route et tu y vas, tu sais pas ce qui va se passer.
Ce voyage, il m'intrigue parce que tu m'en as parlé deux fois. Est-ce que tu peux me décrire les odeurs, les sons, les goûts, les couleurs de ce voyage ? Parce que j'ai l'impression qu'il t'a particulièrement marqué.
Oui, parce que c'était la première fois que j'allais... On a fait les déserts de Los Angeles, tout ça, enfin la Californie, et que je voyais ces espaces, mais immenses, c'était, enfin c'est énorme, c'est vraiment, c'est fou quoi. Tu vas dans la Death Valley, de toute façon tu restes 10 minutes dehors, sinon tu cuis, et ça peut que t'inspirer. Et puis encore une fois, juste quand le soleil se couche, toutes les lumières changent, les montagnes ne sont plus les mêmes, t'as la lumière qui sculpte toutes les choses d'une manière complètement différente. Et t'as pas besoin d'autre chose, en fait. Au pire, d'un livre, ou un peu de musique, ou... et encore, même pas. C'est, t'as tout autour de toi. Et pourtant, c'est quasiment le vide. Donc ça marque, ça. Et je crois que j'ai une attirance pour les grands espaces, pour les choses un peu grandioses, et ce vide. Parce que t'es face à toi-même, il n'y a rien d'autre. Y a pas de... On habite à Paris, donc tout bouge beaucoup, tout très vite. C'est dur de se faire un espace intime là-dedans.
C'est ça que le voyage permet, c'est de prendre du recul et de faire.
Alors
une
ça
pause.
Dépend quel type de voyage, mais j'aime bien quand il y a rien. Je crois que c'est ça qui me plaît. Attends, je réfléchis. Ouais, complètement. C'est ce qui me plaît. C'est d'un seul coup, du coup, tu reprends un peu le temps en main. D'un seul coup, tu as le temps de redessiner, tu as le temps de t'ennuyer. Tu as juste le temps de vivre, en fait, de laisser passer les choses. Et tu n'es pas en train de dire, tiens, il faut que j'aille acheter ça, il faut que je fasse ci. Ah oui, il y a machin qui m'a appelé, il faut que j'aille là. Pause, cool. Voilà, et c'est important ça aussi, de laisser défiler la vie à son rythme. Mais de pas essayer d'accélérer ou de ralentir les choses.
De sauter des passages parce qu'on n'y est pas attentif.
Ouais, tu reviens à des choses très basiques, juste la vie qui passe, simplement. Voilà, c'est tout. Et ça, c'est important. Je crois que c'est ça, les vacances, finalement. Tu vois, et je suis heureux d'avoir partagé ça avec mon pote.
Si tu devais... reprendre la pellicule que tu développais au début et que tu t'arrêtais sur une des images, une image d'un moment que tu aimerais revivre.
De quel âge à quel âge ?
C'est toi qui choisis.
Ah ouais, un moment que je voudrais revivre. Je vais prendre des trucs un peu plus vieux. La naissance de mon fils. Le premier cri. Je trouve ça fou. Vraiment le premier cri, tu dis, je vais essayer de le décrire, mais c'est pas évident parce qu'en fait ça se vit, je crois. C'est simplement t'as jamais entendu la voix de ton fils, quoi, de ton enfant, et d'un seul coup, boum, c'est la première fois. Tout est une première fois d'ailleurs, même en tout début de sa vie, tout est la première fois. Mais ce cri, c'est la première fois aussi pour toi, et c'est fou. T'as l'impression que c'est la vie qui apparaît. Je parle beaucoup de sensations depuis le début. Bah ça, c'est encore une sensation. Elle est unique et ça, faut pas le louper parce que ça n'arrive qu'une fois, quoi. Et je trouve ça dingue. Voilà, ça, j'aimerais,
revivre ce moment.
Le revivre et encore le non, parce que justement, ce qui en fait aussi un moment exceptionnel, finalement, c'est le côté unique.
Est-ce que tu as composé là-dessus ? Tu as écrit sur ce moment que tu as vécu ?
Non.
Faut le faire ?
Je sais pas. Je sais pas, parce que je pense que c'est un moment que j'ai vécu, qui est très important. Il n'est pas moins important que les autres, pas du tout. Mais ça doit rester un moment de joie, de bonheur intense que j'ai vécu. Et je sais pas si j'ai... Ben, j'ai la réponse. Non, je ne l'ai pas fait. Donc, j'ai pas eu...
T'as pas eu besoin de t'attarder.
Le besoin de retranscrire ça en musique ou autre chose. Par contre, j'ai plein. Oui, j'ai 15 millions de photos, ça c'est sûr. Non, parce que c'est un moment que j'ai compris et t'as écrit des choses plus sur des choses parfois que tu n'as pas compris ou des choses qui sont trop fortes pour toi. Et là, c'était très fort, mais tu parles rarement de la joie, en fait, je pense. Et moi, je compose rarement sur la joie. Je l'ai fait sur quelques morceaux aussi, mais pas là. C'était un moment à vivre, point.
Est-ce que tu dirais que la joie, tu la transmets plus par la photo que par la musique ?
Pas sûr. Non, il n'y a ni de la joie ni de la tristesse, je pense, dans les photos. C'est juste, j'essaie d'apporter un
regard.
Des choses qu'on oublie de regarder, peut-être, où je prête plus attention à... C'est ce que moi, je vois, en fait, tout simplement. Et j'essaie de
voir... Et que tu trouves beau.
Ouais, j'essaie de voir le beau, mais le beau, c'est subjectif. Hein. Moi, je vais trouver quelque chose, moi, une roche, je trouve ça génial. Une personne va dire, qu'est-ce que t'as fait ? Ça fait rien dire. Voilà, le beau, les détails. Tu vois cette photo-là de couple
qui s'embrasse ?
Ouais, bah, je sais pas, je trouve ça magnifique, quoi. J'adore ça. Les moments de joie, je les vis, plus qu'en faire quelque chose. Mais j'ai envie... tout doucement, dans ma musique. Je suis en train de tester plein de choses, là. Je ne sais pas ce que j'en ferai, si ça ira dans Aaron ou juste moi ou d'autres compos, mais je suis en train de tester d'autres choses sur... pas spécialement sur la joie, mais c'est lié sur le lâcher-prise. Donc des choses qui sont plus dansantes.
Et plus positives.
Bah, pas spécialement, j'en sais rien, parce qu'en même temps, tu vois, quand tu danses, il y a quelque chose de positif, il y a un lâcher-prise, c'est presque tribal, mais tu peux faire ça sur des paroles, encore une fois, on l'a tous fait, sur des paroles assez tristes, tu vois. Mais il y a une joie là-dedans, quand même, qui se mélange, quand tu danses.
Et pour terminer cette interview, je vais te poser quelques questions que je pose à chacun de mes invités. C'est les questions arrêt sur image.
Allez, vas-y.
Alors, j'ai besoin que tu fermes les yeux.
Ok.
Et que tu te mettes à l'écoute de tes sensations. Ferme les yeux et écoute. Quel est le bruit ou le son qui te procure le plus de sentiments positifs ?
La mer.
Le bruit des vagues ? Ferme les yeux et goûte. Quel est le plat que tu aimes le plus et par qui est-il préparé ?
En Grèce, tomate feta, simple.
Ferme les yeux et sens. Quelles sont les odeurs qui t'émeuvent le plus ?
Le thym.
Ça te rappelle des souvenirs ?
Bah, je sais pas, pour moi c'est les vacances, c'est le sud. Non, le thym et les pins. Les pins, ouais, plus les pins d'ailleurs. Ça c'est vraiment, pour moi c'est les vacances.
Ferme les yeux et ressens. Décris-moi une sensation corporelle qui te fait du bien.
Ce qui me vient, c'est un souvenir, c'est la première fois que je faisais du surf, j'étais à Lanzarote et j'étais avec mon pote et on s'est dit vas-y on loue des surfs, on voit si on arrive à en faire ou pas, donc on fait ça. Et puis d'un seul coup, bien sûr on était dans la mer avec, avec les roches volcaniques autour, et puis d'un seul coup il se met à pleuvoir et l'instinct de base, enfin en tout cas en tant que citadin, c'est de dire bon bah il pleut on rentre, mais bon on était dans l'eau. Il se met à pleuvoir, mais à fond, et je sais pas, il y a un truc où d'un seul coup tu faisais complètement partie de la nature. Et on était là en criant, allez, on y va! Enfin, c'était génial, franchement, c'était trop cool. T'es dans la mer, en plus il pleut à fond, et t'es là, tu fais partie d'un tout. Et j'ai adoré ce moment.
Ferme les yeux et imagine, pense à quelqu'un qui en ce moment te rend particulièrement heureux. Ouvre les yeux et parle-moi de cette personne.
J'ai eu de gros changements là dernièrement dans ma vie, donc c'est pas évident.
Qui t'a apporté du bonheur récemment ?
La mère de mon fils. Elle a été beaucoup là pour moi. Je suis très heureux qu'on soit proche pour notre fils et qu'on s'entende merveilleusement bien. Voilà, ça c'est précieux pour moi. Mais comme dans l'amitié, voilà, les vrais amis, c'est ceux qui sont là dans les moments difficiles. C'est facile de partir quand. On fait tous des erreurs, on n'est jamais assez là comme il faut, bien sûr. Et je parle pour moi aussi. Mais les vraies amitiés, c'est ça, c'est contre vents et marées. Je suis bien entouré. Voilà. Et ça, c'est précieux. Je le chéris chaque jour.
Magnifique. Merci, Olivier.
Merci.
Merci d'avoir écouté le podcast Solaire. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à mettre des étoiles ou commentaires sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi me suivre ou me contacter sur le compte Instagram Solaire Journal.